Épilogue. En septembre, j'ai été invité à chasser chez un ami dans le Nord. En me rendant chez lui, il m'arriva de passer à 15 miles de Jim Merton. L'hôtelier de l'auberge où je m'étais arrêté s'occupait à faire boire mes chevaux lorsque passa sur la route une voiture d'avoine verte fraîchement coupée. « Tiens, » dit l'aubergiste, « ça vient de Jim Merton. Oh, la moisson y est toujours de 3 semaines en retard. » « Jim Merton, » répétai-je, me rappelant mon séjour dans cette localité, « est-ce loin d'ici ?»« Oh, il y a bien 14 miles par les collines et le chemin est dur. » Une soudaine envie me prit de revoir First Cross Grange. Il était à peine midi et je pensais que je pouvais aussi bien passer la nuit sous mon propre toit que dans une auberge. De toute façon, il m'aurait fallu y retourner pour y régler mes comptes de loyer. J'ordonnai donc à mon domestique de s'enquérir du chemin, et 3 heures après, nous étions à Jim Merton. Je laissai mes chevaux dans le village et je descendis seul la vallée. La grise chapelle me parut plus grise et plus solitaire, le cimetière plus abandonné. Je vis un troupeau broutant l'herbe courte sur les tombes. Le temps était chaud et doux, et je jouissais infiniment du paysage qui s'étendait au-dessus et au-dessous de moi. Rien de plus lugubre en hiver, mais rien de plus charmant en été que ces champs coupés de collines et ces fortes senteurs de bruyère. J'arrivai à la grange avant le coucher du soleil et je frappai. Ne recevant pas de réponse, j'entrai dans la cour. Sous le porche, une fille de 9 ou 10 ans était assise, tricotant, et à côté d'elle, une vieille femme qui fumait sa pipe d'un air songeur. « Madame Dean est-elle ici ?» demandai-je à la vieille. « Madame Dean, oh non, elle ne meurt pas ici, elle est là-haut, au haut de hurlement. »« Alors, c'est vous qui gardez la maison ?»«
Oui, je garde la maison. »
« Eh bien, je suis Monsieur Lockwood, le maître d'ici. Avez-vous une place pour me loger? Je voudrais rester pour la nuit. »«
Oh, le maître !» s'écria-t-elle toute surprise. « Personne ne savait que vous alliez venir. Vous auriez dû envoyer un mot. Il n'y a rien de prêt dans la maison. »
Elle quitta sa pipe et entra tout affairée, suivie de la jeune fille. Pour la rassurer, je lui dis de me préparer simplement un coin où je puisse m'asseoir pour souper et un lit pour dormir. Inutile de balayer et d'épousseter, seulement un bon feu et des draps bien secs.
« Et tout va bien, oh oh ?» demandai-je.
« Oui, autant que j'en sais quelque chose. »
J'aurais voulu lui demander encore pourquoi Madame Dean avait quitté la grange, mais je la vis trop émue de mon retour. De sorte que je la quittai et m'avançai lentement vers la demeure de M. Heathcliff, ayant derrière moi l'éclat du soleil couchant et devant moi la douce lueur de la lune qui se levait. Je n'eus ni à grimper par-dessus la porte, ni à frapper pour me la faire ouvrir, elle céda sous ma main. Je fus frappé de ce progrès. Les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Pourtant, comme c'est l'usage dans les districts des mines de charbon, un beau feu rouge illuminait la cheminée. La maison des Hauts de Hurlevent est si grande que les habitants pouvaient toujours se mettre à l'abri de l'excessive chaleur du foyer. Avant d'entrer, j'entendis 2 personnes qui se parlaient tout près d'une fenêtre.
« Contraire !» disait une voix douce comme une clochette d'argent. « C'est la 3e fois que je vous le répète, Anne que vous êtes. Je vous le dirai plus. Tâchez de vous en souvenir ou bien je vous tire les cheveux. »«
Eh bien, contraire, alors, » répondit une autre voix plus profonde mais adoucie.
« Et maintenant, embrassez-moi pour mes bonnes intentions. »« Non, je veux d'abord que vous lisiez tout le passage correctement, sans une seule faute. »
La lecture recommença. Celui qui lisait était un jeune homme, habillé convenablement et assis à une table avec un livre devant lui. Son beau visage brillait de plaisir et ses yeux ne cessaient de se promener impatiemment de la page du livre vers une petite main blanche
qui s'appuyait sur son épaule et qui, de temps en autre, le rappelait à son travail par une petite tape sur la joue. La propriétaire de cette main se tenait derrière. Ses légères boucles blondes se mêlaient par intervalles aux cheveux noirs du jeune homme, et son visage... Il était heureux qu'il ne pût voir ce visage, car jamais il n'aurait pu faire attention à ce qu'il lisait. Je pouvais le voir, moi, par la fenêtre, et je me mordais la lèvre de dépit d'avoir laissé passer la chance de faire quelque chose de plus que de le regarder. La leçon se termina, non sans de nouvelles fautes. L'élève réclama cependant sa récompense et reçut au bout de cinq baisers, que d'ailleurs il rendit généreusement. Alors le couple s'avança vers la porte et se prépara à sortir pour faire un tour sur la lande. Je supposais que le cœur d'Ayrton, sinon sa bouche, m'enverrait au fond de l'enfer si je le dérangeais dans cet heureux moment, et je me détournais pour chercher un refuge dans la cuisine. Là aussi, je trouvais l'entrée libre, et je vis à la porte ma vieille amie Nelly Dean, qui cousait en fredonnant une chanson, tandis que dans le fond se tenait le vieux Joseph, interrompant sans cesse une lecture pieuse pour se plaindre de la perversité universelle. En me reconnaissant, Madame Dean se dressa sur ses pieds et me cria « Eh, Monsieur Lockwood, Dieu vous bénisse! Quelle idée avez-vous eue de revenir de cette façon ? Mais tout est fermé à Swarthmore Grange. Vous auriez dû me prévenir. » Oh, je me suis arrangé déjà pour passer la nuit à la grange, répondis-je. Je repars demain. Mais comment êtes-vous transporté ici, Madame Dean ? Dites-le-moi. Mais Zilla est parti, et peu de temps après votre départ, et M. Heathcliff m'a fait venir ici pour y rester jusqu'à votre retour. Je suis venu ici, dis-je, pour régler mon compte avec votre maître. Quel compte, monsieur, me dit Nelly, me conduisant dans la maison. Au sujet de mon loyer. Oh, alors, c'est avec Madame Heathcliff que vous avez entêté, ou plutôt avec moi, car elle n'a pas encore appris à diriger les affaires, et je la remplace, faute de quelqu'un de mieux. Et comme elle voyait la surprise dans mes yeux, « Ah, dit-elle, il lui paraît que vous n'avez pas appris la mort d'Heathcliff. »« Ah, Heathcliff mort, m'écriai-je, il y a longtemps, à peu près 3 mois. Mais asseyez-vous, laissez-moi vous prendre votre chapeau et je vais tout vous raconter. Et si vous ne voulez rien manger, ben, buvez au moins un coup de notre bonne ale, vous avez l'air fatigué. » Elle sortit aussitôt pour aller chercher la boisson promise, et j'entendis Joseph demander si c'était pas un scandale qu'elle eût des poursuivants à son âge, s'il n'était pas honteux de voir vider ainsi les caves du maître, etc., etc. Mais Nelly ne prit pas la peine de lui répondre, et revint une minute après, apportant un magnifique broth d'argent dont je louais le contenu comme il convenait. C'est alors que j'entendis la fin de l'histoire d'Heathcliff. 15 jours environ après votre départ, dit Madame Dean, je fus mandée au Hurlevent. Ma première entrevue avec Catherine me chagrina beaucoup, je la trouvais si changée. Monsieur Heathcliff ne m'expliqua pas les motifs qu'il avait pour modifier sa conduite à mon égard. Il me dit seulement qu'il avait besoin de moi, qu'il était là de voir Catherine et qu'il fallait que je fasse mon possible pour la garder avec moi dans le petit parloir. D'abord, ma jeune maîtresse parut charmée de cet arrangement. Je lui apportais de la grange un grand nombre de livres et d'autres objets qui avaient jadis servi à l'amuser. Je me flattais que sa situation allait devenir plus tolérable, mais mon illusion ne fut pas de courte durée. Catherine ne tarda pas à devenir irritable et inquiète. D'une part, on lui défendait de sortir du jardin, et il lui coûtait d'être ainsi renfermé à l'étroit pendant que le printemps rayonnait, et d'autre part,
Les soins du ménage m'obligeaient à la quitter souvent, et alors elle souffrait de rester seule. Plutôt que de demeurer sans compagnie, elle préférait aller se quereller avec Joseph dans la cuisine. Souvent, Harriton et lui aussi étaient forcés de chercher abri dans la cuisine, si bien qu'il fut toujours maussade et silencieux, et changea peu à peu d'attitude envers lui et ne put se résigner à le laisser seul. Elle lui parlait, le raillait de sa sottise et de sa paresse, s'étonnait de voir qu'il pût supporter la vie qu'il menait, et restait toute une soirée à regarder le feu. « Il est tout à fait comme un chien, n'est-ce pas, Hélène ?» me disait-elle, « ou comme un cheval de trait. Il fait son ouvrage, mange sa nourriture et dort éternellement. Quelle vie de lugubre esprit doit-il avoir ? Vous arrive-t-il jamais de rêver, Ayrton ? Et alors de quoi pouvez-vous bien rêver ? Mais vous n'êtes pas seulement capable de me parler. » Et elle le regardait, mais lui ne voulait ni ouvrir la bouche, ni lever les yeux sur elle. « Il est peut-être en train de rêver maintenant, » poursuivait-elle. « Demandez-le lui, Hélène. » « Monsieur Ayrton va demander au maître de vous faire monter dans votre chambre si vous ne vous tenez pas tranquille, » dis-je. « Je sais pourquoi Ayrton ne parle jamais quand je suis dans la cuisine, » s'écriait-elle une autre fois. « Il a peur que je ne rie de lui. » « Hélène, qu'en pensez-vous ? Il s'est mis une fois à apprendre à lire, et comme je me moquais, il a brûlé ses livres et arrêté son éducation. N'était-il pas fou ? Et n'étiez-vous pas méchante, vous, dis-je ? Répondez-moi à cela. Oui, peut-être, l'ai-je été en effet, mais je n'aurais pas pensé qu'il en fût si maussade. Ayrton, si je vous donnais un livre maintenant, le prendriez-vous ? Je vais l'essayer. » Elle lui mit dans la main le livre qu'elle lisait, mais il le rejeta en murmurant qu'il allait lui casser le cou si elle ne le laissait pas tranquille. « Eh bien, dit-elle, je vais le mettre là, dans le tiroir de la table, et je vais aller me coucher. » Mais je lui appris le lendemain, à son grand désappointement, que le jeune homme n'avait pas touché à son livre, et cette comédie recommença souvent par la suite, sans plus de succès. Dans les belles soirées de printemps, Ayrton était toujours en chasse, et Catherine gémissait et soupirait et me suppliait de lui parler et se sauvait quand je commençais. Elle pleurait, disant qu'elle était fatiguée de vivre et que sa vie était inutile. Monsieur Heathcliff, qui devenait de plus en plus insociable, avait presque chassé Earthshall de la grande chambre. Au commencement de mars, un accident força le jeune homme à rester à demeure dans la cuisine. Le canon de son fusil éclata et le blessa assez gravement au bras. Catherine parut heureuse de l'avoir toujours dans la maison, et en tout cas, elle jugea sa chambre du premier étage encore plus insupportable et s'ingénia pour trouver de la besogne à la cuisine. Le lundi de Pâques, Joseph partit pour la foire de Jim Merton avec du bétail. Earlshaw était assis, morose comme d'ordinaire, dans le coin de la cheminée, et ma petite maîtresse se distrayait à faire des dessins sur les fenêtres, à fredonner des chansons, à lancer des regards impatients sur son cousin qui fumait tranquillement en contemplant le feu. Tout d'un coup, je la vis s'approcher du jeune homme. Je l'entendis lui parler. J'ai découvert, Ayrton, que j'ai besoin, enfin, que je serais heureuse, enfin, que j'aimerais à ce que vous fussiez mon cousin maintenant, si vous n'avez pas été si dur et de si mauvaise humeur pour moi. Ayrton ne répondit pas. Ayrton, Ayrton, m'entendez-vous ? Poursuivit-elle. Allez au diable. « Je veux que vous m'écoutiez d'abord. Je ne sais comment faire pour que vous m'adressiez la parole, et vous faites exprès de ne pas comprendre. Vous savez bien que quand je vous traite de stupide, cela ne veut pas dire que je vous méprise. Allons, il faudra que vous fassiez attention à moi, Ayrton. »
ne veux rien avoir à faire à vous, et votre sale orgueil et vos tours de démon, répondit-il. Je veux aller en enfer, corps et âme, avant de me retourner de votre côté. Allons, éloignez-vous de moi, tout de suite.
Catherine fronça le sourcil et se retira du côté de la fenêtre en se mordant les lèvres, affectant de fredonner.
Et vous devriez être ami avec votre cousine, monsieur Ayrton, dis-je, puisqu'elle se repent de sa conduite envers vous. Cela vous ferait un grand bien. Sa compagnie ferait de vous un autre homme.
Sa compagnie ? S'écria-t-il. Alors qu'elle me hait, elle ne me croit pas capable de nettoyer ses souliers, non. Quand ce serait pour être roi, je ne voudrais pas rechercher de nouveau ses bonnes grâces.
Ce n'est pas moi qui vous hais, c'est vous qui me haïssez, dit Catherine tout en larmes. Vous me haïssez autant et plus que fait M. Heathcliff. Vous êtes une dame menteuse. Pourquoi alors me serais-je exposé à sa colère cent fois en prenant votre parti ?
Mais je ne savais pas que vous ayez pris mon parti, répondit-elle en se séchant les yeux.
Et mon malheur me rendait amer pour chacun.
Mais maintenant je vous remercie et vous demande pardon. Alors que puis-je faire de plus ?
Elle revint vers le foyer et lui tendit franchement la main. Puis voyant qu'il serrait les poings sans répondre, elle se baissa et le baisa légèrement sur la joue. Je hochai la tête en signe de reproche, ce qui la rendit très honteuse.
« Mais que pouvais-je faire d'autre, Hélène ?» me dit-elle. Il ne voulait ni me serrer la main ni regarder de mon côté. Il fallait bien que je lui montre en quelque façon que je l'aime et que je veux que nous soyons amis.
Si Ayrton fut convaincu par ce baiser, je ne puis le dire, je vis seulement qu'il était gêné de cacher son visage et ne savait où tourner les yeux.
Catherine s'occupa ensuite à envelopper le papier un beau livre, et l'ayant lié d'un ruban et ayant inscrit dessus l'adresse à M. Ayrton Earnshaw, elle me pria de porter ce présent à son destinataire.
Et dites-lui que s'il consent à le prendre, je viendrai lui apprendre à le lire. Ah, tandis que s'il refuse, je monterai dans ma chambre et ne lui adresserai jamais plus la parole.
Je fis la commission surveillée par ma jeune maîtresse, et Ayrton ne voulut pas ouvrir les doigts, de sorte que je déposai le livre sur ses genoux. Mais il ne fit non plus aucun effort pour le rejeter. Mais lorsque Catherine entendit enfin qu'il enlevait la couverture, elle s'élança, vint tranquillement s'asseoir à côté de lui. Il tremblait et sa figure étincelait.
« Dites que vous me pardonnez, Ayrton. Vous pouvez me rendre si heureuse en disant ce petit mot. »
Il murmura quelque chose d'incompréhensible.
« Et vous serez mon ami ?» demanda Catherine.
Non, vous auriez honte de moi tous les jours de votre vie, et plus vous me connaîtriez, plus vous auriez honte, et c'est ce que je ne peux pas souffrir.
Ainsi, vous ne voulez pas être mon ami, dit-elle, avec un sourire doux comme le miel, en se serrant contre lui.
Je n'entendis plus aucun mot distinct, mais en me retournant, j'aperçus, penchés sur les pages du livre, deux figures si radieuses que je vis bien que le traité avait été ratifié des deux côtés et que désormais les ennemis étaient devenus des alliés. Le livre était plein de belles images, de sorte que les deux jeunes gens restèrent immobiles à les regarder jusqu'au retour de Joseph. Celui-ci fut tout surpris en apercevant Catherine assise à côté de Ayrton et la main appuyée sur son épaule. Il força Ayrton à aller rejoindre Heathcliff dans la maison, et comme Catherine promettait à son cousin de lui apporter le lendemain d'autres livres, et voulait laisser celui-là sur la cheminée,
« Tous les livres que vous laisserez, je les porterai au maître, dit Joseph. Il y a guère chance que vous les retrouviez.
Mais Cathy lui assura que sa bibliothèque à lui paierait pour le mal qu'il ferait à la sienne. Et passant en souriant auprès d'Arepton, elle remonta dans sa chambre, plus légère de cœur qu'elle n'avait jamais été auparavant sous ce toit. Ainsi engagée, l'intimité grandit rapidement, malgré mille petites interruptions d'un instant. Earnshaw n'était pas commode à civiliser, et ma jeune maîtresse n'était ni un philosophe, ni un modèle de patience, mais leurs deux esprits tendaient au même but, de sorte qu'ils finirent par y arriver. « Vous le voyez, monsieur Lockwood, c'était assez facile de gagner le cœur de madame Heathcliff. Mais maintenant, je suis heureuse que vous ne l'ayez pas essayé. L'union de ces deux êtres couronnera tous mes vœux, et il n'y aura pas une femme plus heureuse que moi dans toute l'Angleterre le jour de leurs noces. » Un lundi matin, et comme Earnshaw était encore forcé de rester à la maison à cause de son accident, Catherine descendit avant moi et alla rejoindre son cousin dans le jardin. Lorsque j'allais les trouver pour les prévenir que le déjeuner était prêt, je vis qu'elle avait persuadé au jeune homme d'arracher un grand nombre de buissons et de planter à la place des fleurs apportées de la grange. Je fus terrifié de la dévastation qu'ils avaient accomplie dans une petite demi-heure. Les noirs buissons de cassis qui venaient d'arracher faisaient la joie de Joseph, et je pensais bien qu'il serait furieux. « Là, tout cela va être montré au maître, m'écriai-je. Mais alors, quelle excuse aurez-vous pour avoir pris de telles libertés? Oh, nous allons avoir une belle explosion sur la tête. Monsieur Ayrton, je m'étonne que vous n'ayez pas plus d'esprit. Vous êtes fou de l'écouter ainsi. J'avais oublié que ces buissons étaient à Joseph, répondit Earnshaw, très embarrassé. Mais je vais lui dire que c'est moi qui ai tout fait. Nous prenions toujours nos repas avec M. Heathcliff. Je tenais la place de maîtresse de la maison pour servir le thé et pour découper. Catherine était généralement assise à côté de moi, mais ce jour-là, elle s'était mise près de Harrington, et je vis bien qu'elle n'aurait pas plus de discrétion dans son amitié qu'elle en avait eu dans son hostilité. « Prenez garde au moins de ne pas trop causer avec votre cousin, » lui murmurai-je à l'oreille. « Cela ennuierait M. Heathcliff, et il serait furieux contre vous deux. »« Soit, je ne lui causerai pas, » répondit-elle. Mais la minute d'après, elle s'était installée à côté de lui et trempait les primevères dans son plat de porridge. Lui, il n'osait pas lui parler, ni même le regarder. Elle continuait à l'agacer, si bien qu'il fut deux fois sur le point d'éclater de rire. Je fronçai le sourcil, elle s'arrêta, jeta un coup d'œil sur le maître, dont l'esprit semblait occupé de toute autre chose que de nous, mais bientôt elle se retourna et recommença ses folies. Harrington ayant cette fois poussé un rire contenu, M. Heathcliff tressaillit et ses yeux firent rapidement le tour de la table. Catherine le considérait avec son regard habituel, un regard inquiet mais plein de défis, et qui l'aborait. « Vous avez de la chance d'être hors de ma portée, » cria-t-il. « Mais quel démon vous possède pour que vous me regardiez constamment avec ces yeux d'enfer? Détournez vos yeux, et ne me faites pas souvenir désormais de votre existence. Je croyais vous avoir guéri de l'habitude de rire. »
« C'était moi, » murmura Harrington.
« Que dites-vous ? » demanda le maître. Harrington regarda son assiette et ne dit rien. M. Heathcliff, après l'avoir considéré un instant, reprit sa rêverie interrompue. Le déjeuner était à peu près achevé et les deux jeunes gens s'étaient mis prudemment à l'écart, lorsque Joseph se montra à la porte, la lèvre tremblante et les yeux furieux, et déclara longuement qu'il voulait s'en aller, qu'il ne pouvait pas supporter davantage une pareille cruauté. « Allons, allons, idiot !» interrompit Heathcliff. « Assez ! De quoi vous plaignez-vous ?
Je veux pas me mêler de vos querelles avec Nelly. Elle peut vous jeter dans le trou à charbon sans que je m'en soucie.
Mais c'est pas Nelly, répondit Joseph. Si méchante qu'elle soit, du merci, serait pas capable de voler l'âme de personne. C'est cette maudite petite reine-là qui a ensorcelé notre garçon avec ses yeux hardis et ses manières provocantes. Il a oublié tout ce que j'ai fait pour lui et il a été arraché toute une rangée de mes plus beaux cassis dans le jardin.
Cet animal est-il ivre? Demanda M. Heathcliff.
Ayrton, est-ce à vous qu'il en a? Oh, j'ai arraché deux ou trois buissons, répondit le jeune homme, mais je vais les replanter.
Et pourquoi les avez-vous arrachés?
Catherine intervint. Ben, nous voulions planter là quelques fleurs. Je suis la seule personne à blâmer, car c'est moi qui l'ai voulu.
Et qui diable vous a donné la permission de toucher à quoi que ce soit ici? Demanda son beau-père stupéfait. Et qui vous a ordonné de lui obéir? Ajouta-t-il en se tournant vers Ayrton.
Ce dernier restait muet. Sa cousine répondit.
Oh, vous ne devriez pas me refuser quelques pouces de terre, vous qui m'avez pris toutes mes terres.
Vos terres, insolente souillon, jamais vous n'en avez eu.
Et mon argent aussi, poursuivit-elle en lui lançant un regard irrité.
Silence, allez-vous-en.
Et aussi les terres d'Ayrton et son argent, poursuivit la jeune femme hors d'elle-même. Ayrton et moi sommes amis maintenant, et je lui dirai tout à votre sujet.
Le maître parut un instant confondu. Il devint très pâle et se leva, sans cesser de la considérer avec une expression de haine mortelle.
Si vous me frappez, Ayrton vous frappera, dit-elle. Ainsi vous feriez mieux de rester assis.
Si Ayrton ne vous chasse pas d'ici, je le frapperai à mort, tonna Heathcliff, maudite sorcière. Osez-vous prétendre à l'exciter contre moi? Hors d'ici, entendez-vous. Emmenez-la dans la cuisine, je vais la tuer, Elendin, si vous ne la laissez revoir.
Ayrton essuya tout bas de lui persuader de s'en aller.
« Chassez-la d'ici !» cria Heathcliff d'un ton de voix sauvage. « Allez-vous perdre votre temps à lui parler ?»
Et il s'approcha pour exécuter lui-même son ordre.
« Il ne vous obéira plus désormais, méchant homme, » dit Catherine. « Et bientôt il vous détestera autant que je le fais. »« Chut, chut !» murmura le jeune homme d'un ton de reproche, je ne veux pas vous entendre lui parler ainsi. Mais vous ne souffrirez pas qu'il me frappe, lui cria-t-elle. Bon alors, venez.
Mais il était trop tard. Heathcliff l'avait saisi dans ses mains.
Et maintenant, vous, allez-vous-en, dit-il à Hancho. Sactanée sorcière! Cette fois, elle m'a provoqué au-delà de ce que je pouvais supporter. Et je veux la faire s'en repentir à jamais. »
Il l'avait empoignée par les cheveux, et Ayrton essayait vainement de la lui enlever, le suppliant de ne pas lui faire de mal cette fois encore. Les yeux noirs des cliffs étincelaient. Il semblait prêt à la mettre en pièces, et je venais à mon tour à la rescousse, lorsque je vis tout à coup ses doigts se relâcher. Maintenant, il la tenait simplement par le bras et la regardait dans les yeux. Puis il lui cacha les yeux avec ses mains, se recueillit un instant et finit par lui dire avec assez de calme
« Il faut que vous appreniez à éviter de me passionner ou bien il m'arrivera vraiment de vous tuer un jour. Allez avec Madame Dean et restez avec elle. Quant à Ayrton Earnshaw, si je le vois vous écouter, je l'enverrai chercher son pain où il pourra le trouver. Votre amitié pour lui fera de lui un mendiant. Nelly, emmenez-la et qu'on me laisse seul. »
Monsieur Heathcliff resta seul dans la chambre jusqu'au dîner. J'avais conseillé à Catherine de dîner en haut, mais aussitôt qu'il vit son siège vide, il m'envoya la chercher. Il ne parla à personne, mangea très peu,
et sortit tout de suite après, en donnant à entendre qu'il ne reviendrait pas avant le soir. Pendant son absence, les deux nouveaux amis s'installèrent dans la maison. Tout d'un coup, j'entendis que Ayrton grondait durement sa cousine parce qu'elle s'était offerte à lui révéler la conduite de son beau-père envers son père à lui. Il dit qu'il ne souffrirait pas un mot de blâme contre M. Heathcliff. Quand même, celui-ci serait le diable, cela n'importait. Il serait de son parti. Il lui dit qu'il préférait la voir dire du mal de lui-même, comme elle faisait auparavant, que de M. Heathcliff. Catherine allait se fâcher, mais il trouva le moyen de la retenir en lui demandant s'il aimerait qu'il lui dise du mal de son père à elle. Mais elle parut alors comprendre que Earnshaw était attaché au maître par des liens assez forts pour que la raison ne puisse les dénouer par des chaînes qu'avait forgées l'habitude et qu'il serait cruel d'essayer de briser. Depuis lors, elle fit preuve de bon cœur en évitant aussi bien les plaintes que les expressions d'antipathie à l'égard d'Heathcliff. Et je ne crois pas en vérité que, à dater de ce jour, elle ait prononcé une seule phrase contre son oppresseur en présence du jeune homme. Ce petit désaccord réglé, ils redevinrent amis et s'occupèrent de leur mieux, elle comme maîtresse et lui comme élève. Je vins m'asseoir près d'eux quand j'eus fini mon ouvrage, et je sentis si heureuse de les voir ainsi que je ne fis pas attention à la fuite du temps. Vous le savez, ils m'apparaissaient tous les deux un peu comme mes enfants. D'elle, j'avais été fier en tout temps, et j'étais sûr maintenant que lui aussi serait pour moi une source de satisfaction. Sa nature honnête, intelligente et ardente dissipa rapidement les nuages d'ignorance et de dégradation où on l'avait maintenue. Son esprit, en s'éclairant, éclaira ses traits, rendit leur expression plus vive et plus noble. Je pouvais à peine croire que c'était le même individu que j'avais vu à la même place si sauvage et si inculte un an auparavant. Pendant qu'ils travaillaient, que je les admirais, le maître rentra. Il arriva à l'improviste et put voir en plein notre groupe avant que nous ayons songé à lever les yeux. C'est seulement lorsqu'il fut tout près que les deux jeunes gens s'aperçurent de sa présence. Peut-être n'avez-vous jamais remarqué que leurs yeux sont tout à fait semblables. Ils ont tous les deux les yeux de Catherine Earnshaw. Notre Catherine n'a pas d'autre trait de ressemblance avec sa mère, excepté la largeur du front et une disposition des narines qui lui donne l'air hautain, qu'elle le veuille ou non. Ayrton, au contraire, ressemble beaucoup à sa tante. Et cette ressemblance était alors particulièrement frappante à cause de l'activité exceptionnelle de ses sens et de son esprit à ce moment. Peut-être est-ce cette ressemblance qui désarma M. Heathcliff. Il s'était avancé derrière le foyer avec une agitation manifeste, mais il se calma aussitôt qu'il rencontra les yeux du jeune homme. Il lui prit le livre des mains, regarda la page ouverte, puis le rendit sans aucune observation, en faisant signe simplement à Catherine de s'éloigner. Son compagnon ne tarda pas à sortir derrière elle, et j'allais m'éloigner aussi lorsque le maître m'ordonna de rester avec lui. « Voilà bien une pauvre conclusion, n'est-ce pas ?» me dit-il, après un instant de réflexion. J'amasse des leviers et des pioches pour démolir les deux maisons, et je me prépare à agir comme un Hercule, et puis, lorsque tout est prêt et en mon pouvoir, je ne trouve plus la force d'enlever une seule tuile du toit. Mes anciens ennemis ne m'ont pas vaincu. Ce serait au contraire maintenant le moment précis pour me venger sur ce qui les représente, et je pourrais le faire, et personne ne pourrait m'en empêcher. Mais à quoi bon ? Je ne me soucie pas de frapper. Je ne veux pas prendre la peine de lever la main. Ne croyez pas que j'ai trouvé cette occasion de me montrer magnanime. J'ai simplement perdu la faculté de trouver du plaisir à leur destruction.
Je veux pas avoir la fatigue de détruire quoi que ce soit. Nelly, je sens venir en moi un changement singulier. Je prends si peu d'intérêt à ma vie journalière que c'est à peine si j'ai l'idée de manger et de boire. Ces deux êtres qui viennent de quitter cette chambre sont les seuls objets qui gardent pour moi une apparence matérielle distincte. Et cette apparence me cause une peine infinie. D'elle, je ne veux rien dire, mais je souhaiterais vivement qu'elle devint invisible, sa présence n'éveille en moi que des sensations qui m'affolent. Oh, lui, c'est d'une autre façon qu'il m'émeut. Et cependant, si je pouvais le faire sans avoir l'aide de fou, je ne le reverrais pas. Il y a 5 minutes, Ayrton m'a semblé une incarnation de ma jeunesse. Sa ressemblance saisissante avec Catherine le rattachait terriblement à elle. Mais ce n'est pas là la raison la plus puissante, et qu'est-ce qui sert à passer un poil pour moi? Est-il une chose qui ne me le rappelle pas? Je ne puis baisser les yeux vers ce plancher sans voir ses traits dessinés sur les dalles. Dans chaque nuage, dans chaque arbre, je suis environné de son image, elle remplit l'air la nuit et reparaît le jour au fond de toute chose. Les figures les plus ordinaires des hommes et des femmes, ma propre figure, me raille en me la faisant voir. Le monde entier est une collection terrible de souvenirs, me faisant songer qu'elle a existé et que je l'ai perdue. Eh bien, la vue d'Ayrton a été pour moi le fantôme de mon impérissable amour, de mes efforts farouches pour maintenir mon droit, de ma dégradation, et de mon orgueil, et de mon angoisse, et de mon bonheur. Mais c'est folie de vous répéter ces idées. Vous comprendrez comment, malgré ma répugnance à rester toujours seul, sa société, loin d'être pour moi un bienfait, aggrave encore mon supplice. Et c'est en partie cela qui me rend indifférent à la façon dont il se comporte avec sa cousine. Il m'est impossible désormais de faire attention à eux.
Mais que voulez-vous dire par un changement, monsieur Heathcliff ? Dis-je, effrayé de ses paroles. Jamais je ne l'avais jugé en danger de perdre la raison ni la santé. Il était aussi fort et bien portant que d'ordinaire. Et pour ce qui est de sa raison, il s'était complu dès l'enfance à insister sur les idées sombres et entretenir d'étranges imaginations. Il pouvait bien avoir une monomanie au sujet de sa défunte idole, mais sur tous les autres points, son esprit était aussi solide que le mien.
Ce changement, je ne le connaîtrai que lorsqu'il sera venu. Je n'en ai encore eu qu'un vague pressentiment.
Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas ? Demandai-je.
Non, on ne le lit pas du tout.
Vous n'avez pas peur de mourir non plus ?
Oh non, répliqua-t-il. Je n'ai ni la peur, ni le pressentiment, ni l'espoir de mourir. Avec ma constitution robuste et mon train de vie tempéré, il est probable que je resterai vivant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un cheveu blanc sur ma tête. Mais pourtant, je ne puis continuer à rester dans cette condition. C'est seulement par force que je puis faire les actes les plus insignifiants, noter une personne vivante ou morte qui ne se rattache pas à mon idée constante. Je n'ai qu'un seul désir, et tout mon être tend à le réaliser. J'y ai tendu si longtemps et si fermement que je suis convaincu que je pourrais le réaliser, et bientôt, parce qu'il a dévoré mon existence. Dieu, c'est une longue lutte et je voudrais qu'elle soit finie.
Il se mit à marcher dans la chambre, se murmurant à lui-même des choses terribles, si bien que je penchais à croire, comme l'avait dit Joseph, que sa
conscience avait fait un enfer dans son cœur. Je me demandais comment cela finirait, car j'étais sûr que c'était là maintenant son état ordinaire, quoique personne à le voir ne l'eût deviné. Il était alors exactement le même que lorsque vous l'avez vu, monsieur Lockwood, seulement plus épris encore de solitude et peut-être encore plus laconique en société. Pendant quelques jours après cette soirée, M. Heathcliff évita de nous rencontrer à table, sans jamais consentir cependant à en exclure Hareton et Cathy. Il ne voulait pas céder entièrement à ses sentiments et préférait s'absenter, ne mangeant guère plus qu'une fois par jour. Une nuit, lorsque tout le monde était couché, je l'entendis descendre et sortir. Le lendemain matin, il était encore absent. Nous étions en avril, le temps était doux et chaud, l'herbe aussi verte que pouvait la rendre telle les pluies et le soleil. Et les deux pommiers nains près du mur étaient tout en fleurs. Après le déjeuner, Catherine voulait absolument porter ma chaise et me faire asseoir avec mon ouvrage sous les sapins qui bordent la maison. Et elle demanda à Hareton, qui s'était tout à fait remis de son accident, de lui arranger son petit jardin, transformé dans ce coin à la suite des plaintes de Joseph. Je jouissais commodément des senteurs du printemps et de la douceur du ciel bleu, lorsque je vis ma jeune dame, qui était allée près de la grande porte pour chercher des pieds de brime vert, revenir en courant et nous informer que M. Heathcliff revenait. « Et il m'a parlé, ajouta-t-elle, d'un air confondu. « Mais que vous a-t-il dit ?» demanda Hareton. « Il m'a dit de me sauver aussi vite que je pouvais. » Mais il avait une figure si différente de l'ordinaire que je me suis arrêté un moment pour le regarder. Comment cela? Eh bien, il avait l'air presque brillant et joyeux. Non, pas presque, mais très excité et très gai, répondit-elle. C'est alors que les promenades nocturnes lui font du bien, remarquai-je d'un ton insouciant. Mais en réalité, je n'étais pas moins surprise qu'elle, et j'avais hâte de constater la vérité de ce qu'elle venait de dire. Je trouvais un prétexte pour rentrer dans la maison. Heathcliff se tenait debout sur la porte. Il était pâle et il tremblait. Mais certainement, il avait dans les yeux un éclat étrange, joyeux, qui altérait l'aspect de sa figure. « Voulez-vous déjeuner ?» lui demandai-je. « Vous devez avoir faim, après avoir rôdé toute la nuit. »« Non, je n'ai pas faim, » répondit-il, détournant la tête et me parlant avec mépris, comme s'il devinait que je cherchais à pénétrer les raisons de sa bonne humeur. « Je ne crois pas que ce soit bon pour vous de sortir la nuit, » lui fis-je observer. « Pas en tout cas pendant cette saison humide. » « Je prévois que vous allez attraper un rhume ou une fièvre. Vous avez l'air d'avoir quelque chose. »«
Rien que ce que je peux supporter, » répondit-il. « Et même avec grand plaisir. Pourvu que vous me laissiez, allez-vous-en et ne m'ennuyez pas. »
J'obéis et je remarquai en passant qu'il respirait avec une violence inouïe. Ce jour-là, il s'assit à table avec nous et reçut de mes mains une assiette chargée jusqu'au bord, comme s'il voulait se rattraper de son jeûne du matin. « Mais je n'ai ni rhume, ni fièvre, Nelly, » fit-il, par allusion à mon discours du matin.
« Et je suis prêt à faire honneur à la nourriture que vous allez me donner. »
Il avait pris son couteau et sa fourchette et commençait à manger, lorsque, tout d'un coup, son excitation parut tomber. Il déposa le couteau et la fourchette sur la table, jeta un coup d'œil du côté de la fenêtre, puis se leva et sortit. Nous le vîmes marcher de long en large dans le jardin pendant que nous terminions notre dîner. Earlshaw nous dit qu'il voulait aller le rejoindre et lui demander pourquoi il ne voulait pas dîner.
Il avait peur de l'avoir offensé en quelque façon. « Eh bien, va-t-il venir ?» demanda Catherine en voyant revenir son cousin. « Non, répondit-il, mais il n'est pas fâché. En vérité, il avait plutôt l'air heureux. Seulement, je l'ai impatienté en lui adressant une seconde fois la parole, alors il m'a dit de retourner vous rejoindre. Je mis son assiette au chaud, et après une heure ou deux, il rentra, sans paraître calmé en aucune façon. Il avait la même expression anormale de joie sous ses sourcils noirs, le même teint pâle, et de temps à autre, il laissait voir ses dents dans un vague sourire. Il tremblait non comme on tremble de froid ou de faiblesse, mais plutôt d'une vibration incessante et régulière. Je ne me retins plus de savoir ce qu'il avait. « Avez-vous appris de bonnes nouvelles, M. Heathcliff ? Vous avez l'air plus animé que de coutume. »« Et d'où ? D'où pourrais-je avoir une bonne nouvelle ? Je suis simplement excité par la faim. Et avec cela, je ne peux pas manger. » « Votre dîner est là, répondis-je. Pourquoi ne le mangeriez-vous pas ?»« Non, pas maintenant, murmura-t-il rapidement. J'attendrai le souper. » « Et Nelly, une fois pour toutes, laissez-moi vous prier de prévenir Ayrton et les autres qu'ils aient à se tenir à l'écart de mon chemin. Je veux n'être dérangé par personne. Je veux avoir cet endroit pour moi seul. » « Y a-t-il quelque nouvelle raison à ce bannissement ? » demandai-je. « Mais dites-moi ce qui vous rend si singulier, monsieur Heathcliff. Où êtes-vous allé la nuit dernière ? Ce n'est pas par vaine curiosité que je vous fais cette question. »« Si, c'est par curiosité, » fit-il avec un rire. « Mais n'importe, je vais y répondre. » La nuit dernière, j'étais sur le seuil de l'enfer. Aujourd'hui, je suis en vue du ciel. J'y ai mes yeux fixés, à peine 3 pas pour m'en séparer. Et maintenant, vous feriez mieux de vous en aller. C'est ce que je fis en effet, plus perplexe qu'auparavant, après avoir balayé le foyer et nettoyé la table. Il resta dans la maison toute cet après-midi et personne ne dérangea sa solitude jusqu'à ce que, à 8 heures, je crus devoir me permettre de lui apporter de la lumière et son souper. Il s'appuyait contre le rebord d'une fenêtre ouverte, mais il ne regardait pas dehors et avait le visage tourné vers l'intérieur sombre de l'appartement. Le feu s'était éteint. La chambre était remplie de l'air doux et humide du soir, et le calme était si grand que non seulement on pouvait distinguer le murmure du ruisseau au bas de Jimmerton, mais encore le bruit de son frottement contre les galets ou les larges pierres qu'il rencontrait sur son chemin. En entrant, je me mis à fermer les volets des fenêtres jusqu'à ce que je parvins à la fenêtre où il s'était appuyé. « Puis-je fermer ceci ? » demandai-je pour l'éveiller, car il restait immobile. La lumière éclaira ses traits pendant que je lui parlais. « Oh, monsieur Lockwood, je ne puis vous dire le frisson terrifié que me causa ce rapide coup d'œil. Ses yeux noirs et profonds, ce sourire et cette pâleur de spectre, je crus voir non pas M. Heathcliff, mais un fantôme. Et dans mon épouvante, je baissai la chandelle de façon qu'elle s'éteignît. « Oui, fermez, » me répondit-il d'une voix familière. « Mais voyez, comme vous êtes maladroite, pourquoi teniez-vous la chandelle de cette façon ? Alors faites vite et rapportez-en une autre. » Je me hâtai, en effet, affolé, je sortis, et n'osant pas rentrer, je dis à Joseph que le maître lui ordonnait d'apporter de la lumière et de rallumer le feu. Joseph partit avec des cendres chaudes pour allumer le feu. Mais aussitôt il revint, rapportant et les cendres et le souper.
Il m'annonça que M. Heathcliff allait se coucher et ne voulait pas manger jusqu'au lendemain. Nous l'entendîmes en effet monter aussitôt l'escalier. Il n'alla pas dans sa chambre habituelle, mais entra dans celle du lit à panneaux. La fenêtre de cette chambre est assez large pour qu'on puisse passer à travers, et je soupçonnais Heathcliff de méditer de nouveau une excursion nocturne dont il ne voulait pas que nous nous apercevions. Après une nuit traversée des rêves les plus horribles, je me levai et j'allai dans le jardin pour voir s'il y avait des traces de pas sous la fenêtre. Mais non, il n'y en avait aucune. « Oh, il est resté ici la nuit, pensais-je. Tout ira bien aujourd'hui. » Je préparai le déjeuner à l'ordinaire et je dis à Ayrton et à Catherine de ne pas attendre l'arrivée du maître. Ils aimèrent mieux déjeuner dehors, sous les arbres, et j'allais leur disposer une petite table à cette intention. En rentrant, je trouvai M. Heathcliff descendu. Il causait avec Joseph des affaires de la ferme. Il lui donnait des indications claires et détaillées, mais il parlait très vite, tournait sans cesse la tête de côté et gardait toujours cette expression exaltée, plus forte même que la veille. Lorsque Joseph quitta la chambre, il s'assit à sa place ordinaire et je mis un bol de café devant lui. Il fit un geste pour le rapprocher de lui, puis reposa ses bras sur la table et se mit à observer avec un soin infini un endroit déterminé du mur en face de lui. Ses yeux mobiles étincelaient et il paraissait si intéressé à ce qu'il voyait que parfois il s'arrêtait une demi-minute pour respirer. « Allons !» m'écriai-je, lui mettant un morceau de pain dans la main. « Buvez votre café pendant qu'il est chaud. Il y a près d'une heure qu'il attend. » Il ne fit pas attention à moi, et pourtant il sourit. J'aurais préféré le voir grincer les dents que sourire de cette façon. « Monsieur Heathcliff, mon maître !» m'écriai-je. « Pour l'amour de Dieu, ne regardez pas comme si vous voyiez une vision surnaturelle !» « Pour l'amour de Dieu, ne criez pas si fort !» me répondit-il. « Regardez alentour et dites-moi si nous sommes seuls. »« Naturellement, nous sommes seuls. » Pourtant, je lui obéis involontairement comme si j'en étais pas tout à fait sûr. Lui, cependant, éloigna le pain et la cuillère et s'accouda sur la table pour regarder plus à son aise. Je m'aperçus alors que ce n'était pas le mur qu'il regardait, car son regard avait l'air d'être dirigé sur quelque chose de très éloigné, et la chose qu'il voyait, quelle qu'elle fût, paraissait à la fois lui donner un plaisir et une peine infinie, car sa figure avait une expression où l'angoisse se mêlait avec le ravissement. J'eus beau lui rappeler son abstinence prolongée de toute nourriture, lorsqu'il faisait un mouvement pour prendre un morceau de pain, ses doigts se détendaient avant de le saisir et retombaient sur la table inerte. Et comme je continuais mes instances, il s'irrita, me demanda pourquoi je ne le laissais pas prendre son temps, me dit que la prochaine fois j'aurais à le laisser déjeuner seul et à m'en aller. Après quoi, il quitta la maison, descendit vivement le sentier du jardin et disparut par la grande porte. Il ne revint qu'après minuit et au lieu d'aller se coucher, il s'enferma dans l'appartement du bas. Ne pouvant dormir, j'écoutais et je finis par me lever et par descendre. Je distinguai le pas de M. Heathcliff se promenant de long en large. De temps à autre, il rompait le silence pour pousser un profond soupir pareil à un grognement. Il murmurait aussi des mots incohérents, mais le seul que je pus saisir était le nom de Catherine, prononcé sur un ton bas et grave, comme celui d'une personne présente à qui il aurait parlé.
Je n'eus pas le courage d'entrer dans la chambre. Mais, voulant le tirer de sa rêverie, je me mis à préparer le feu de la cuisine et à gratter les cendres. Il s'aperçut du bruit plus tôt que je n'avais pensé. Il ouvrit immédiatement la porte et dit « Nelly, venez ici. Est-ce déjà le matin? Venez avec votre lumière. » « Voilà 4 heures qui sonnent, répondis-je. Vous avez sans doute besoin d'une chandelle pour remonter dans votre chambre. » « Non, je ne veux pas remonter dans ma chambre, dit-il. Venez et allumez-moi le feu et faites tout ce qu'il y a à faire dans la maison. » J'apportai un soufflet et je m'assis près du foyer. Lui, cependant, continuait à marcher et ses lourds soupirs se succédaient si pressé qu'il semblait avoir remplacé sa respiration accoutumée. « Au point du jour, j'enverrai chercher Green, me dit-il. Je veux l'interroger sur certains détails de législation, tandis que je peux encore accorder une pensée à ces matières et agir avec un peu de calme. Je n'ai pas encore écrit mon testament, je ne puis décider ce que je dois faire de ma propriété. » Je voudrais pouvoir l'anéantir de la surface de la terre. » On ne parlait pas ainsi, monsieur Heathcliff. Attendez encore avec votre testament. Vous aurez encore le temps de vous repentir de vos nombreuses injustices. Jamais je n'aurais pensé que vos nerfs se détraqueraient. Et cependant, ils sont singulièrement détraqués maintenant, et presque entièrement par votre propre faute. La façon dont vous avez passé ces 3 dernières nuits aurait abattu l'homme le plus fort. Mais prenez quelque nourriture et quelque repos. Vous n'avez qu'à vous regarder dans une glace pour voir combien vous avez besoin de l'une et de l'autre. Vos joues sont creuses et vos yeux pleins de sang. Vous êtes comme une personne qui meurt de faim et qui perd la vue par manque de sommeil. Ce n'est pas ma faute si je ne puis dormir ni me reposer. Je vous assure que ce n'est nullement pas un dessein prémédité. Je le ferai aussitôt que je pourrai. Mais vous pourriez aussi bien dire à un homme qui lutte dans l'eau de se reposer à quelque distance du rivage. Il faut d'abord que j'y parvienne, et alors, oh là oui, je me reposerai. Et pour Monsieur Green, soit, n'en parlons plus. Et quant à me repentir de mes injustices, je n'ai pas fait d'injustice et ne me repens de rien. Je suis trop heureux, et cependant je ne suis pas assez heureux. Le bonheur de mon âme tue mon corps sans me satisfaire lui-même. Heureux maître, m'écriai-je, étrange bonheur, si vous voulez m'écouter sans vous mettre en colère, je vous donnerai un conseil qui pourrait vous rendre plus heureux.
« Qu'est-ce que c'est, donner ?»«
Vous savez, dis-je, monsieur Heathcliff, que depuis l'âge de 13 ans, vous avez mené une vie égoïste et peu chrétienne, et c'est à peine, probablement, si vous avez tenu une Bible dans vos mains pendant tout ce temps. Vous devez avoir oublié le contenu de ce livre. Croyez-vous qu'il serait mauvais d'envoyer chercher un ministre ou quelqu'un pour vous l'expliquer, pour vous montrer combien vous vous êtes écarté de ses préceptes?
Je suis plutôt content que fâché de ce que vous me dites, Nelly, car vous me faites songer à vous indiquer de quelle façon je veux être enterré. Je veux que l'on me porte au cimetière le soir. Vous pourrez, si vous voulez, m'accompagner avec Ayrton. Et vous aurez soin de veiller à ce que le fossoyeur obéisse à mes instructions au sujet des 2 cercueils. Aucun ministre n'a besoin de venir, et il n'y a besoin de rien dire sur mes restes. Je vous répète que j'ai presque atteint mon ciel à moi, et celui des autres ne me tente en aucune façon. »
Aussitôt qu'il entendit se lever les autres membres de la famille, il se retira dans sa tanière et je respirai plus librement. Mais l'après-midi, tandis que Joseph et Ayrton étaient à leur ouvrage, il entra dans la cuisine
et d'un air égaré, me dit de venir m'asseoir dans la maison parce qu'il avait besoin de quelqu'un avec lui. Je refusai, lui disant simplement que l'étrangeté de ses discours et de ses manières m'épouvantait et que je n'avais ni assez de nerfs ni assez de courage pour rester seul avec lui. « Je crois que vous me prenez pour un démon, » dit-il avec son sinistre sourire. « Je vous apparais comme quelque chose de trop horrible pour vivre sous un toit humain. » Puis se tournant vers Catherine, qui se trouvait là, et qui se cacha derrière moi à son approche, il ajouta en raillant à demi, « Voulez-vous venir, vous, petite poulette? Vous ferez pas de mal. Mais non, pour vous, je me suis rendu pire que le diable. Eh bien, il y en a une qui n'aura pas peur de m'accompagner. Pardieu, elle est impitoyable. Oh, par l'enfer! C'est infiniment trop à supporter pour la chair et le sang, même pour les miens. » Et il ne demanda plus la société de personne. Au crépuscule, il monta dans sa chambre, et pendant toute la nuit et longtemps dans la matinée, nous l'entendîmes grogner et se murmurer à lui-même. Harrington désirait entrer, mais je lui dis d'aller chercher M. Kenneth et qu'il entrerait avec lui. Lorsque le médecin arriva, il trouva la porte verrouillée. Heathcliff nous dit d'aller au diable, qui se portait mieux et voulait rester seul. La soirée qui suivit fut très humide. Il ne cessa pas de pleuvoir jusqu'au matin. Ce matin-là, en faisant le tour de la maison, je vis que la fenêtre de la chambre d'Heathcliff était grande ouverte et que la pluie tombait tout droit. « Il est impossible qu'il soit dans son lit, me dis-je. Ses averses l'auraient pénétré de part en part. » Et je me résolus à aller hardiment voir ce qui en était. Avec une autre clé, je parvins à ouvrir la porte. Je défis les panneaux du lit. Monsieur Heathcliff était là, couché sur son dos. Ses yeux rencontrèrent les miens d'un regard si pénétrant et si ferme que je tressaillis. Il me sembla de plus qu'il souriait. Je ne pouvais penser qu'il fût mort, mais son visage et sa gorge était tout trempé de pluie. Les draps du lit étaient humides, et lui restait parfaitement immobile. Le volet, dans son mouvement, avait écorché une de ses mains, et aucun sang ne sortait de l'écorchure. Lorsque je pris cette main dans la mienne, le doute ne fut plus possible. Heathcliff était mort. Je fermai la fenêtre, j'écartai de son front ses longs cheveux noirs, j'essayai de fermer ses yeux pour éteindre et cacher à tous cet effrayant regard exultant. Mais les yeux ne voulurent pas se fermer et semblèrent railler mes efforts. Je vis aussi une raillerie dans ses lèvres entrouvertes et ses dents blanches. Prise d'un nouvel accès de frayeur, j'appelai Joseph. Mais Joseph, après avoir su ce qui en était, se refusa résolument à intervenir. « Le diable a emporté son âme, cria-t-il, et il peut bien prendre sa carcasse par-dessus le marché sans que je m'en soucie. » Après quoi, il tomba sur ses genoux, leva les mains et remercia le ciel de ce que le maître légitime fut remis dans ses droits. Le pauvre Harrington, celui qui avait été le plus maltraité, fut aussi celui qui souffrit le plus. Il resta assis toute la nuit près du corps, pleurant amèrement. Il pressait les mains de Heathcliff, baisait cette figure sarcastique et sauvage que tout le monde, excepté lui, évitait même de regarder. Nous l'enterrâmes, comme il l'avait désiré, au grand scandale de tout le voisinage. Tout le cortège était composé d'Earnshaw et de moi, du fossoyeur, et de 6 hommes pour porter le cercueil.
Les 6 hommes partirent après avoir déposé le corps dans la fosse. Nous restâmes seuls pour voir la terre tomber sur lui. Ayrton planta par-dessus du gazon vert, qui est à présent aussi frais et aussi verdoyant que sur les tombes voisines. J'espère donc que celui qui en est recouvert dort avec le même calme. Mais les gens du pays, si vous les interrogez, vous jureront sur la Bible qu'il revient. Il y en a qui disent qu'ils l'ont rencontré près de l'église, d'autres sur la lande, d'autres même dans la maison. Il y a un mois, j'allais un soir à la grange, par un temps de ténèbres et de tonnerre, et juste au tournant des Hauts de Hurlevent, je rencontrai un petit garçon qui avait un mouton et 2 agneaux devant lui. Il pleurait. Lorsque je lui demandais ce qu'il avait, il me dit que là-bas, sous les arbres, il y avait Heathcliff et une femme, et qu'il n'osait pas passer devant eux. Je ne vis rien, mais ni le mouton ni lui ne voulaient avancer. Sans doute, ces fantômes étaient nés de ses rêveries, à la suite de ce qu'il avait entendu dire à ses parents et à ses compagnons. Depuis lors, pourtant, je n'aime plus à sortir seul la nuit, ni à rester seul dans cette sombre maison. Et je serai bien heureuse quand nous rentrerons à la grange. « Ah, alors, ils vont à la grange ?» demandai-je. « Oui, » répondit Madame Dean, « dès qu'ils seront mariés, c'est-à-dire après le nouvel an. Et qui est-ce qui vivra ici ?» « Eh bien, Joseph prendra soin de la maison. Il y aura peut-être un garçon pour lui tenir compagnie. Il vivra dans la cuisine et le reste sera fermé. À l'usage des fantômes qui voudront l'habiter, dis-je. Non, monsieur Lockwood, dit Lee en secouant la tête. Je crois que les morts dorment en paix. Et il n'est pas bon d'en parler avec légèreté. » À ce moment, la grande porte s'ouvrit, les 2 promeneurs revenaient. « Ils n'ont peur de rien, » murmurai-je en les regardant par la fenêtre. « Ensemble, ils braveraient Satan et ses légions. » Je me sentis une fois de plus irrésistiblement poussé à les éviter, et laissant un petit souvenir dans la main de Madame Dean, je quittai la maison. Sur mon chemin, je fis un petit détour du côté du cimetière. Après avoir cherché quelque temps, je découvris les 3 pierres debout à l'entrée de la lande. Celle du milieu grise et à demi cachée sous la bruyère, celle d'Edgar Linton, légèrement recouverte de gazon et de mousse, celle d'Heathcliff, encore presque nue. J'errais autour d'elle, sous ce beau ciel. J'observais les vers se glissant dans l'herbe. J'écoutais la douce brise qui agitait les feuilles et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer un sommeil inquiet à ceux qui dormaient sous cette terre si tranquille.